Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, notre Seigneur dit dans l'Évangile que celui qui veut venir à ma suite porte sa croix chaque jour et qu'il me suive. Et saint Benoît dit qu'on doit avertir celui qui entre dans la vie monastique qu'il entre dans une vie difficile et on doit lui décrire les croix qu'il aura à porter et les difficultés qu'il aura à assumer. Sans rien lui cacher et même en l'avertissant. Au moment où nous parlons du baptême, qui est l'entrée dans la vie chrétienne, il est important, justement, de bien avertir les fidèles, de ne rien leur cacher, bien sûr, mais même de les avertir pour qu'ils ne soient pas dans l'illusion. Nous avons deux types de croix à porter. Le premier type de croix, c'est ce qui nous identifie à notre Seigneur, c'est-à-dire porter la même croix que lui, et c'est principalement le martyre, la haine du monde, l'amour des opprobres. Et nous avons un deuxième type de croix à porter, c'est la lutte contre nos défauts pour mieux ressembler à notre Seigneur, et la lutte, la purification de notre faiblesse humaine, qu'elle soit coupable ou pas coupable, notre faiblesse humaine a besoin d'être purifiée et élevée, et cela aussi est une croix. Voyons donc ce que sont les premières croix, celles que notre Seigneur a portées et que nous avons apportées nous aussi. Je vous ai parlé la dernière fois du martyr, mais ce serait une illusion que de vous prêcher le martyr sans vous prêcher l'amour des opprobres et la haine du monde, ou plutôt ce que vous allez subir de la part du monde qui vous hait. Notre Seigneur le dit dans l'Évangile, « Le monde m'a haï » ou « Le monde me hait », c'est pourquoi il vous haïra vous aussi. Saint Paul nous avertit également que la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Nous, nous prêchons le Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Donc, ne nous faisons pas d'illusions. Saint Ignace, dans ses exercices, parle de l'amour des opprobres. Qu'est-ce que l'opprobre ? C'est quelque chose de déshonorant, de honteux. Eh bien, évidemment, nous n'allons pas aimer ce qui est honteux aux yeux du chrétien. Au contraire, nous aimons la vertu qui est honorable. Mais il y a une telle opposition entre le monde et le chrétien que le monde considère comme honteux ou honteuse la vertu chrétienne. Il nous jette à la figure comme un déshonneur ce qui est notre plus fier honneur, à savoir l'amour de la croix, l'amour de la Sainte Vierge, l'amour de l'humilité, la vertu, la générosité, l'exercice de la miséricorde, parce que le monde, lui, au contraire, aime l'orgueil, il aime son aise, il est égoïste. C'est très important de le savoir, cela. Vous ne pourrez pas échapper, mes bien chers frères, vous ne pourrez pas échapper à la haine du monde. Et avec les progrès de la Révolution, avec l'avancée du monde, c'est la sagesse de Dieu qui permet que la Révolution semble dominer de plus en plus. C'est probablement dû d'ailleurs à la faiblesse des chrétiens, je pense même que c'est très certainement dû à la faiblesse des chrétiens, qui justement n'ayant pas de vigueur ont laissé le monde avancer et Dieu les punit en leur donnant l'occasion de se purifier en portant leur croix. Donc ne vous attendez pas, mes bien chers frères, et quiconque est baptisé doit s'y attendre dès le premier jour, ne vous attendez pas à vivre dans la paix, Avec le monde, ça n'est pas possible. On vous traitera de coincé, d'intégriste, d'intolérant, de démodé. Le jeune sera traité de cassos, ce qui veut dire cassocial dans leur langage, de puceau, de que sais-je encore. La jeune fille sera traitée de fifi à sa mémère. Ce sont des choses très concrètes, vous voyez, mais qui vont évidemment beaucoup plus loin, puisque le monde voudrait démolir la vertu chrétienne. Il a la haine de la vertu chrétienne. Et nous, nous devons en avoir la fierté. À partir du moment où nous sommes impressionnés par les opprobres du monde, c'est-à-dire les insultes que le monde nous jette à la figure comme un opprobre, à partir du moment où nous sommes impressionnés, à partir de ce moment-là, nous sommes perdus. Parce que notre fierté est une fierté de la croix, une fierté du Christ humilié, une fierté du Christ qui avait perdu toute apparence humaine aux yeux des hommes, le Christ qui est, je vous l'ai dit, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Il est évident que notre position de traditionaliste augmente cette haine du monde envers nous. Et il est évident qu'aujourd'hui, notre position de traditionaliste doit être une fierté. Et mes bien chers frères, sachez transmettre cela aux jeunes. Je vous l'ai dit, c'est dès le premier jour que Saint Benoît veut qu'on avertisse le futur moine et celui qui entre dans la vie monastique. Eh bien, c'est dès le premier jour que le jeune doit être formé à l'amour de la croix, c'est-à-dire à l'amour des opprobres. Le martyr de la plupart des chrétiens aujourd'hui, c'est l'amour des opprobres. Notamment lorsqu'il entre dans l'adolescence. Il a été protégé jusqu'à maintenant. Il a été, s'il a eu une bonne famille chrétienne, il a été dans une paix relative. Et l'entrée dans l'adolescence doit être accompagnée d'une formation à l'amour de la croix, à l'amour des opprobres et à la fierté des opprobres. On pourrait même dire que la formation de l'adolescence, c'est cela. Former un adolescent, c'est le faire passer de la quiétude de la famille, de cette douce quiétude dans laquelle il aime le bon Jésus facilement et sans difficulté ou sans trop de difficulté. Il lui suffit d'obéir pour que les choses aillent bien, le faire passer à la vie d'homme qui est une vie dans laquelle on porte sa croix, on subit l'attaque du monde, et ça c'est très difficile. La deuxième catégorie de croix que nous avons apportée, c'est celle justement par laquelle nous nous corrigeons nous-mêmes, nous purifions nous-mêmes. Et puisque je vous parlais des adolescents, c'est peut-être une très grande croix pour eux. Nous n'y faisons peut-être pas toujours assez attention. Ils entrent dans le monde et ils découvrent que le monde est mauvais. Et ils n'ont pas le droit de reculer pour longtemps. Ils n'ont pas le droit de revenir dans l'enfance. Ils doivent continuer à avancer. Et non seulement ils doivent affronter ce monde mauvais en étant vertueux, mais ils doivent apprendre à le faire. Comment on fait cela ? Comment on vit dans le monde ? Parce que notre Seigneur l'a dit aux apôtres, « Je ne prie pas pour que vous soyez retirés du monde, mais pour que vous soyez préservés du mal. » Il doit y avoir un accompagnement du jeune, mais cet accompagnement lui-même est un accompagnement assez austère, parce que ce n'est plus un accompagnement dans la sensibilité. Il y a une sorte de nuit des sens qui est pour tout chrétien, qui commence au moment de l'adolescence, mais qui va se poursuivre tout le long de la vie, à savoir que le chrétien ne se guide pas selon ce qu'il voit, mais selon ce qu'il sait. Voyez pour un adolescent, par exemple, la difficulté d'exercer des œuvres de miséricorde fastidieuses, avec comme seul mobile de savoir que notre Seigneur le demande, qu'on imite notre Seigneur en exerçant la miséricorde. Il en va de même pour toute la découverte du monde. Jusqu'à maintenant, l'adolescent voyait. Il voyait ses parents, il voyait la vie de famille, il voyait vraiment de ses yeux de chair ce que Dieu attendait de lui, et il était réconforté, même d'une façon sensible. Maintenant, il ne voit plus, il sait, ce sont des choses dont les fruits se verront dans plusieurs années. Il travaille pour le ciel, il travaille pour l'avenir, et il ne lui suffit plus de se comporter selon sa sensibilité. Cette purification des sens continuera tout au long de la vie. Je n'ai pas l'intention aujourd'hui de vous parler de la nuit des sens telle que Saint Jean de la Croix nous l'a décrit. Saint Ignace de Loyola, d'une façon plus simple, nous parle des désolations. Vous devez, mes bien chers frères, vous attendre à des désolations. Qu'est-ce qu'une désolation ? C'est un moment où on perd la consolation. Le bon Dieu nous console souvent dans la vie, mais souvent il retire ses consolations et il permet que nous soyons livrés à nous-mêmes et qu'à ce moment-là, nous n'ayons plus la consolation extérieure. Vous aurez tout le temps cela dans la vie. Et la désolation, Saint Ignace nous dit qu'elle est un châtiment, elle est une épreuve ou elle est une leçon. Elle est un châtiment parce que souvent elle vient de ce que nous n'avons pas voulu nous conduire vers les hauteurs de la vie chrétienne. Et par conséquent, évidemment, du coup, la vie devient pesante. Elle est une leçon parce qu'elle nous apprend à vivre selon la foi et non pas seulement selon les apparences. À vivre selon la raison, mais la raison dirigée par la foi et pas seulement selon les apparences. Et puis, elle est une épreuve parce qu'elle nous purifie. Elle nous purifie parce que justement, elle nous rend plus semblables aux anges, aux saints surtout. Les saints se conduisent selon la loi de Dieu, selon la sagesse de Dieu, non pas selon la sagesse du monde, ni même selon ce qu'ils voient. Saint Jean de la Croix nous dit que ce sont les sécheresses qui font avancer l'âme dans la voie du pur amour de Dieu. J'ai parlé des adolescents, mais je vais m'adresser maintenant aux adultes. Il y a certains moments dans la vie où on cherche à aimer Dieu et on ne sait plus comment le faire. Notamment dans la vieillesse, par exemple, on n'arrive plus à prier, ou plutôt on croit qu'on n'arrive plus à prier parce qu'on n'a plus de consolation, on n'a plus de joie sensible à prier. On n'a plus de consolation avec le monde, on n'en a pas encore avec le bon Dieu. La partie sensible de notre être est abattue, dit Saint Jean de la Croix, languissante. On a l'impression de reculer, on est inquiet parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. On a du mal à méditer comme autrefois, la méditation devient difficile. Et pourtant on veut aimer le bon Dieu et on se demande ce qui se passe. Eh bien cette nuit des sens, Saint Jean de la Croix nous dit qu'elle donne la lumière. Elle nous fait découvrir ce qu'est véritablement la foi en Dieu et l'amour de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, la foi éclaire l'âme, la foi pure, et non plus une foi qui était encore peut-être enfantine, débutante, qui s'appuyait peut-être encore trop sur des consolations qui réconfortent. Et nous découvrons que les consolations, finalement, ne réconfortent pas toujours, tandis que la désolation, si nous l'acceptons de bon cœur, comme un moyen de nous approcher de Dieu, alors non seulement elle nous fait progresser, mais elle nous réconforte, c'est-à-dire qu'elle nous donne de la force. Il y a aussi un aspect naturel à tout cela. La révolution, vous voyez, connaît. Elle connaît la doctrine chrétienne, la révolution. Si vous croyez que Satan ne connaît pas les livres de théologie, si vous croyez qu'il n'a pas lu Saint Jean de la Croix, si vous croyez qu'il ne connaît pas la psychologie chrétienne, et ses complices ont appris auprès de lui les mêmes choses, toute cette sagesse inversée de Satan, qui est une folie. Et donc, il faut que nous nous rendions bien compte de ce que le monde moderne est une conspiration universelle contre toute forme de vie intérieure. C'est Bernanos qui dit cela. Le monde moderne, comment va-t-il faire pour vous détourner de Dieu? Il peut proposer des gros péchés, mais beaucoup plus simplement, il va vous noyer dans la sensibilité. Il va vous impressionner par des choses humaines, mais qui ne sont pas les choses de Dieu. Il va vous impressionner par tout ce qui se voit. C'est pour ça que c'est un drame, l'audiovisuel, aujourd'hui. Toutes ces images animées, mais même déjà les images inanimées, tout cet audio qui encombre, toute cette sensibilité qui flatte le confort. Je suis actuellement au monastère de la Sainte-Croix au Brésil, je rentrerai dans quelques jours, et j'ai beau être un prêtre et pas un petit genou, avoir 68 ans et non plus la facilité de mes 25 ans, eh bien, quand je dois prendre la douche, aller me laver et même aller aux toilettes, eh bien, je dois sortir de ma cellule, traverser le cloître et me rendre en face. Et tous les moines font de même. Et puis, il n'y a pas d'eau chaude. Bon, au Brésil, c'est pas trop grave. Mais voilà, il n'y a pas d'eau chaude. Et c'est normal. Et on s'est habitué, vous voyez. Et alors, évidemment, la tendance, c'est de dire, mais où vais-je avoir mes aises? Mais personne n'a ses aises. Alors je pense que Don Thomas, Monseigneur Thomas d'Aquin, vu son âge et ses difficultés de santé, a de l'eau chaude pour sa douche, je suppose. Et puis il a son cabinet de toilette. Puis c'est normal. Tous les moines le comprennent bien. Mais sinon, tous les autres moines sont à la même enseigne que la mienne. Et ce sont eux qui ont raison. Bien sûr, ce sont eux qui ont raison. Alors, il y a un dressage, voyez, à faire, une formation à lutter contre notre sensibilité, même d'un point de vue naturel, pour arriver, lorsqu'il s'agit de l'amour de Dieu, à ce que la sensibilité ne soit pas un poids. Alors, si on commence dans la jeunesse, eh bien, il faut encourager l'enfant à travailler pour des choses dont il ne voit pas le résultat, que ce soit le travail de classe, que ce soit le travail à l'atelier. Il y a même à l'atelier un long apprentissage difficile pour arriver à bien faire les choses. Et ce n'est que nettement plus tard qu'on jouit du fruit de son travail. La même chose en classe. Et je vous le disais, la même chose dans l'inconfort. Et puis c'est pas seulement dans la jeunesse, mais après. Et puis également l'analyse grammaticale, l'analyse logique qui est tellement importante, l'apprentissage de la lecture et qui permet d'entrer dans la pensée d'un auteur, tandis que la lecture globale et le manque d'analyse grammaticale et logique ne permettent pas d'entrer dans la pensée d'un auteur, ne permettent pas d'entrer dans la pensée de l'Évangile, rendent difficile la lecture spirituelle et la compréhension des choses qui ne sont pas sensibles. Un livre de lecture ne se fait pas avec des images, un livre de lecture se fait avec des mots. Et l'apprentissage de la lecture se fait avec des mots, avec des phrases et avec des propositions complétives, circonstancielles, et puis des attributs du sujet, des compléments d'objet direct. Sinon, comment voulez-vous qu'on puisse penser? Et si on ne peut pas penser, comment voulez-vous qu'on puisse sortir de la sensibilité qui nous rend semblables aux animaux, si on n'y fait pas attention? Vous voyez que le baptême nous fait entrer dans une vie chrétienne, c'est très concret. Et puis après ça, il y a la nuit de l'esprit. La raison elle-même devient impuissante à nous guider. Il n'y a plus que la foi. C'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui est à la fin de sa vie. Se demandait même si elle croyait. Et le simple fait qu'elle se pose la question, en réalité, c'est qu'elle avait une foi très forte. Mais une foi qui n'avait plus de correspondance. Alors, non seulement dans la sensibilité, comme je vous l'ai dit, mais même dans la raison. Parce qu'il est évident que la sagesse de Dieu est tellement élevée qu'elle dépasse même nos raisonnements. Croire en la présence réelle, ça vous est naturel. Mais il y a certains moments, quand on réfléchit, on se dit « mais qu'est-ce qui me le prouve ?» Et nous n'avons rien pour le prouver. Le Saint-Esprit parle en notre âme, nous dit les choses, Mais nous savons bien que, alors quelquefois nous sommes aidés par des miracles, mais pas si souvent que cela. Heureusement, nous avons la Très Sainte Vierge pour nous guider. Elle qui est une bonne mère, et comme bonne mère, elle nous encourage à passer par ces différentes nuits, ces différentes épreuves. En un mot, elle nous fait lutter contre nos passions. Et saint Thomas d'Aquin nous dit que la lutte contre les passions met de l'ordre dans notre vie pour arriver à la parfaite contemplation de Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.